au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Au fil des pages, avec pour invité Jean-Pierre Thurberg. Bonjour Jean-Pierre Thurberg.
Bonjour.
Vous êtes PDG des éditions Italiques et vous avez fait un travail remarquable sur la guerre 14-18, puisqu'une autre émission que vous pouvez consulter sur Canal Académie le met en valeur. Je rappelle qu'il a été couronné par le prix de la Légion d'honneur et le prix du souvenir français. Il s'agit des 300 jours de Verdun. Un ouvrage donc édité par les éditions Italiques dont vous êtes le président. Vous êtes également président de l'association Lafayette Nous Voilà et c'était l'occasion de faire un point de mire avec vous sur cette question des relations entre la France et les États-Unis et puis de ce choc culturel entre les troupes américaines et les poilus en 1917. Alors ce qui va nous occuper, si vous le voulez bien, pendant à peu près une demi-heure, ce sont des écrits également, les journaux de tranchées que vous avez rassemblés dans un double ouvrage intitulé, avec un très beau titre, hein, je vais vous le faire commenter, La plume au fusil. Ça c'est pas mal ça quand même, hein, La plume au fusil.
Oui, j'ai fait souvent le lapsus d'ailleurs qui est de dire la fleur au fusil. Non, là c'est la plume au fusil quand les poilus devenaient écrivains ou journalistes.
Alors c'est une plume en forme de panache parce que c'est une belle écriture. Hein.
Un panache extraordinaire. Oui.
Vous allez d'ailleurs nous en lire des extraits, on va y revenir. Une distinction, d'abord, il y a les journaux intimes des poilus, et puis il y a les journaux des tranchées.
Voilà, il y a une très belle citation d'un auteur que je cite fréquemment parce qu'il a, de façon extraordinaire, étudié les journaux de tranchées juste après la guerre. Il n'avait pas ce recul de l'historien, il n'avait pas cette vista, comme diraient les anglo-saxons, que nous pouvons avoir aujourd'hui. Lui, il avait le nez dedans, il venait de vivre la guerre, il avait des journaux de tranchées qui étaient encore des originaux tout frais, si j'ose dire, dont l'encre n'était pas encore sèche. Et il fait un commentaire des journaux de tranchées dont je me suis beaucoup servi pour mon livre, dans lequel il dit cette phrase, je la cite de mémoire, mais je ne le trahis pas, « Les journaux intimes que tenaient les poilus montrent le poilu tel qu'il se voyait. » Les journaux de tranchées, qui étaient ces petits journaux rédigés, écrits, illustrés, distribués, imprimés par les poilus eux-mêmes, montraient le poilu tel qu'il voulait qu'on le vît. Quant à ce qu'il fut réellement, point de suspension. Et je crois que tout l'intérêt des journaux tranchés est dans cette phrase. On a lu beaucoup de journaux intimes de poilus qui nous racontent plus ou moins bien, avec plus ou moins de talent, ils ont vu plus ou moins de choses intéressantes. C'est passionnant, mais ça reste un petit monologue intérieur. Ou au plus, c'est un petit discours qu'on tient à l'intention des intimes. Là, le journal, c'est tout à fait autre chose. C'est une espèce de mise en scène du poilu par le poilu lui-même. Donc, on est dans un théâtre. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon livre, le premier livre que j'avais fait sur les journaux tranchés, il y a une douzaine d'années, dont nous sommes à la 13e édition, ce qui montre que le sujet est intéressant. J'avais divisé ça en coulisses, personnages, acteurs, strapontins, etc. Il y a une espèce de dramatisation et un côté mise en scène du poilu, de la guerre, qui est un esprit totalement différent du journal intime.
On est sur un théâtre d'opération et ils ont le temps de faire du théâtre.
Alors ça, c'est une des choses qui étonne le plus quand on prend les premiers journaux de tranchées. On imagine la Grande Guerre comme un continuum de l'horreur avec des bombardements sans cesse, des montées en ligne, des morts, des blessés. C'est vrai, c'était ça. Mais c'était aussi des heures interminables, des jours interminables, des semaines interminables pendant lesquelles on était coincé au front dans cette horrible guerre de position, dans une tranchée, dans une cagna, dans un gourbi, avec la pluie qui tombait, avec les rats, avec les copains qui ne pouvaient pas bouger parce qu'on était dans des fleuves de boue. Et il fallait tuer le temps. Et il y a une très belle formule dans un journal de tranchées qui était « Il faut tuer le temps en attendant d'être tué ». Et pour tuer le temps, ben, chacun s'occupait à sa manière. Il y avait les petits gars qui étaient serruriers ou qui étaient ferronniers ou qui étaient ajusteurs dans le civil, qui s'emparaient de restes de cuivre ou de métal laissés sur le champ de bataille et qui, avec des outils de fortune, en faisaient des bijoux. On a tous dans la famille hérité des cendriers, des vases, des bagues qui viennent des tranchées, qui sont ce qu'on a appelé ensuite l'artisanat ou les bijoux de tranchées. Et puis, pour les plus intellectuels ou pour les moins manuels, l'autre dérivatif, c'était d'écrire. Et on est d'ailleurs étonné de voir à quel point, vous l'avez laissé entendre dans votre introduction, à quel point nos anciens, de ce point de vue-là, étaient incroyablement doués. Je crois qu'on prendrait aujourd'hui une classe d'âge en France et on lui ferait écrire un petit journal dans lequel ils racontent leur vie, leur quotidien, etc., on n'aurait en aucun cas la qualité, la diversité, la fraîcheur, le talent qu'on peut trouver dans ces journaux tranchés. Et on est stupéfait de voir que ces poilus, qui n'étaient pas des intellectuels, qui n'avaient pas Bac plus 4, ils avaient souvent le certificat d'études, ils avaient simplement suivi les cours de leurs instituteurs ou des bons pères, suivant le bord auquel ils appartenaient. On est surpris de voir le talent, la culture qu'ils peuvent mettre dans des journaux. Il ne faut pas imaginer que ces journaux tranchés étaient monopolisés par des intellectuels. Il y en avait quelques-uns. Il y a quelques grands noms qui ont laissé leur nom ou leur sobriquet au bas de journaux tranchés. On a par exemple Apollinaire, on a des personnages qui par la suite ont été connus pour leur Galtier-Boissière, connus pour leur apport littéraire, mais on a aussi du français moyen. Et le français moyen, à l'époque, écrit de façon lumineuse, étonnante, drôle. Vraiment, c'est une cascade, c'est un émerveillement. Alors, on a quelques contre-exemples. On a quelques poilus qui écrivaient du pied gauche. Bon, mais c'est relativement peu fréquent. Et là, je voudrais dire cette admiration que j'ai pour les poilus. Vous avez eu la gentillesse de dire le succès qu'ont eu nos livres sur la Première Guerre. Je voudrais répliquer, et ça n'est pas de la fausse modestie, c'est quelque chose que je pense profondément, en disant on se grandit en se mettant au service de plus grand que soi. Et tous les jours, quand je prends ces textes des poilus, quand je lis leurs témoignages, je me dis je suis au service de gens qui étaient infiniment plus grands que je ne le serai jamais. Et c'est
alors
un
justement,
honneur.
Vous allez nous lire quelques extraits de ces journaux tranchés. Mais d'abord, une chose qu'il faut rappeler, même s'il s'agit d'une évidence, ce sont des hommes jeunes.
Oui, c'est une
évidemment.
Chose qu'on a tendance à perdre de vue. Aujourd'hui, on a tous dans les yeux cette image des anciens combattants. Aujourd'hui, les deux survivants connus ont 110 et 107 ans. J'ai rencontré l'un d'eux. Même s'il est extraordinairement vert, c'est quand même un très vieux monsieur. 107 ans, on est quand même plus qu'on était à 20 ans. Les poilus dans les tranchées, pour l'essentiel, c'était des jeunes hommes. En tout cas, des hommes jeunes. La moyenne d'âge devait se situer à 23, 24, 25 ans. Il y avait certes quelques vieux territoriaux qui cassaient des cailloux ou qui faisaient des travaux ingrats, mais très dangereux de logistique. Mais globalement, les combattants étaient des gamins. Et un gamin, ça a le goût de la provocation, ça a le goût de la plaisanterie, ça a la gouaille aux lèvres, ça n'est pas du tout un vieux monsieur compassé. Et une des choses extraordinaires, un des chocs qu'on éprouve en ouvrant les journaux de tranchées, c'est de voir qu'on n'a pas affaire à des vieux, mais qu'on a affaire à des jeunes. Et c'est pour ça que, je crois, ce premier livre sur les journaux de tranchées a eu un tel succès. C'était, pour beaucoup de lecteurs, une découverte, un choc, de voir que finalement, les poilus, c'était des potaches, par les modernes.
La plume au fusil, eh bien justement, on va prendre cette plume, ou plutôt, vous allez prendre vos yeux pour nous faire partager le talent de ces poilus. Vous avez cité Apollinaire, est-ce que vous voulez commencer par lui ?
Écoutez, oui, Apollinaire, qui a fait une guerre brillante, même si elle fut interrompue par un éclat d'obus qui le ramena à l'arrière, à son corps défendant, était lui-même le contributeur, comme nous dirions aujourd'hui, d'un journal de tranchées qui s'appelait « Le rire aux éclats ». Et dans « Le rire aux éclats », il écrit le petit poème suivant que je vais vous lire. « Le rire aux éclats. Ah, que c'est bien rire aux éclats des 210, des 150, il s'agit évidemment des obus de calibre 210 et 150, que c'est bien de n'être pas là, de sourire dans la tourmente. C'est pourquoi le rire aux éclats est une idée exquise et crâne, et naguère au temps des lilas, l'éclat tempêta sous mon crâne. J'en ris comme l'on rira de vos éclats que tous vont lire. Riez, poilus, on les aura, par le courage et le sourire. » Guillaume Apollinaire, Le rire aux éclats, numéro 5 et numéro 6, en 1916. Et on a tout, là. On a le talent, bien sûr, c'est Apollinaire, mais on a aussi la gouaille, cet esprit français qui fait que, même si on a peur, comme partout, comme tout le monde...
On les aura.
On les aura et on essaie de rire, on essaie de se montrer sous son avantage. Et puis, l'éclat tempêta sous mon crâne, bien évidemment, c'est un humour noir extraordinaire, puisqu'on sait qu'il fut trépané à la suite d'une blessure qu'il reçut au front, précisément un éclat d'obus dans la tête. Autre petite plaisanterie glanée dans un journal de tranchées, ce que nous avions appelé les brèves de tranchées dans le premier tome des journaux de tranchées, qui était la formule suivante, « À quoi bon vous creuser la tête, un obus le fera pour vous ». Voilà un exemple d'humour noir que cultivaient les poilus dans des conditions dans lesquelles nous serions incapables, je crois, nous, hommes modernes, de vivre pendant 3 jours. Et c'est une des choses aussi qui est une révélation, c'est de voir que non seulement ils vivaient, non seulement ils survivaient, mais en plus ils riaient.
Et ça, c'est un aspect quand même extrêmement surprenant.
Et c'est un aspect qui va au-delà de la plaisanterie. Je parlais tout à l'heure du petit théâtre dans lequel ils se mettaient en scène.
C'est un rire de force intérieure.
C'est aussi, oui, la volonté de dépasser quelque chose par le rire. Je crois que on rit quand on est gêné, on rit quand on a besoin de dépasser quelque chose d'horrible. Et là, il rit parce que c'est la façon de vaincre la mort, c'est la façon de vaincre l'oubli, c'est la façon de s'affirmer comme un homme. Le rire est le propre de l'homme, disait Bergson, si je ne m'abuse. Ben là, il prouve qu'ils sont des hommes en arrivant à rire dans les pires conditions qu'on puisse imaginer.
Alors, ces journaux de tranchées, Jean-Pierre Thurberg, comment étaient-ils diffusés? Par exemple, le rire aux éclats, il se répandait, il était renéotypé, comment ça se passait?
Alors c'était très variable. D'abord, première chose, il y eut plusieurs petits journaux de tranchées qui naquirent en même temps. Alors on peut ensuite ergoter, savoir qui était réellement le premier à quelques heures près, mais il y a une espèce de génération spontanée qui n'en était pas vraiment une. C'est-à-dire que sur des secteurs très différents qui n'avaient pas entre eux de contact, des hommes ont eu la même idée. Placés dans les mêmes conditions, la même idée est née et on a assisté dans des secteurs différents, dans des corps différents, dans des troupes différentes, à des naissances concomitantes de petits journaux de tranchées. Mais évidemment, ensuite, la méthode de production, la méthode d'illustration, la méthode d'impression, la méthode de diffusion, tout cela variait en fonction des conditions locales. Le cas classique, c'était le tampon, c'est-à-dire le secrétaire du colonel qui servait de dactylographe, qui détournait la machine à écrire sur laquelle il devait taper les ordres du jour ou les citations ou les rapports à la hiérarchie pour taper brièvement des articles. Puis ensuite, on utilisait des machines qui pouvaient être des machines à pâte, à renéoter, très, très simples et très rudimentaires, ou bien, dans certains cas, j'en ai un exemple dans ma région natale, qui est la ville de Belfort, les poilus qui étaient déployés dans les Vosges avaient trouvé un système dans lequel le secrétaire ou l'ordonnance du colonel montait sur une moto, revenait à Belfort, qui était une ville encore libre à l'époque, et profitait de l'amitié agissante d'un imprimeur local qui existe toujours du reste aujourd'hui, lequel imprimeur lui tirait gratis pro deo en forme d'hommage aux poilus quelques milliers d'exemplaires. Il y eut des journaux qui étaient tirés à 15-20 exemplaires copiés à la main. Il y eut également des journaux qui furent tirés à 20, 30 000 et même 100 000 exemplaires et qui étaient diffusés à Paris. Il y avait à Paris un point de vente, comme on dirait aujourd'hui, dans lequel, par la voie sacrée ou par les convois qui transitaient, on faisait venir des journaux de tranchées qui étaient vendus à la population parisienne. Et on touche là du doigt, je crois, un autre aspect passionnant, c'est cet esprit, je dirais, de rétablissement de la vérité. Une des choses dont les poilus souffraient le plus, c'était ce qu'ils appelaient le bourrage de crâne, c'est-à-dire cette espèce de propagande qui, à trop vouloir les présenter comme des héros, enlevait tout héroïsme à leur action quotidienne. Je cite quelque part le maréchal Ney qui disait « J'aimerais qu'on me présente le Jean Foutre qui dit ne jamais avoir eu peur ». Je crois qu'à présenter les poilus comme des héros qui sautaient dans la tranchée boche...
Ça se retournait contre eux.
Voilà, c'était faire litière de leur sacrifice. Oui. Et donc, une des vertus de cette presse, c'était de montrer aux gens de l'arrière ce qu'était réellement la guerre, ce qu'elle était d'abord avec ce qu'elle pouvait avoir de terrible, de dur, de douloureux, ce qu'elle était avec ce qu'on pouvait trouver de courage solide, d'humour noir, etc., pour passer ces épreuves, et puis ce qu'elle était également très loin des clichés que la presse de Paris véhiculait.
Est-ce que le commandement voyait ces journaux de tranchées de bonne grâce comme une soupape, en quelque sorte, ou bien comme un risque de fédérer éventuellement les contestations?
Alors là, je dois dire que le commandement a eu une attitude particulièrement intelligente. Le maréchal Joffre, alors général, avait même pondu un ordre du jour disant « Partout fleurissent ces petits journaux ». En gros, à partir du moment où il ne révèle pas à l'ennemi des renseignements d'ordre militaire, donc là, il fallait effectivement exciser le nom des secteurs, le nom des officiers.
L'ennemi
se les
procurait aussi.
Bien sûr, l'ennemi s'en procurait en attaque. Mais à partir du moment où les petits journaux ne trahissent pas des secrets d'ordre militaire, il faut les encourager car ils permettent aux poilus de supporter l'insupportable. Ils ne l'écrivaient pas comme cela, mais le résultat était là. Donc une vocation d'exutoire. Et on a très peu d'exemples de petits journaux qui aient été censurés. Le plus bel exemple que nous ayons trouvé, c'est un journal dans lequel écrivait, je crois, Paul Vaillant-Couturier, fort bien du reste, qui parut un jour avec la une complètement blanche, avec un petit mot disant simplement « La grande blanchisseuse nous interdit de parler ». Voilà. Mais sinon, la censure était relativement amicale. Puis en plus, sur un plan pratique, si on avait voulu les interdire, ça aurait été très difficile, compte tenu de l'existence éphémère, compte tenu des moyens de briques et de broc, du bricolage, on ne pouvait pas frapper comme on le ferait dans un grand journal parisien où on envoie des forces de police ou un huissier.
Au fil des pages, avec Jean-Pierre Thurberg, PDG des éditions Italique, qui nous fait partager ses journaux de tranchées. C'est d'ailleurs le titre justement de cet ouvrage très important, un très beau livre que vous pouvez retrouver sous le titre également que l'on pourra retrouver sous la tranche de l'ouvrage « La plume au fusil ». Vous restez avec nous, Jean-Pierre Thurberg. À tout de suite.
Canal Academy rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Reynac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Au fil des pages consacrées aux journaux de tranchées, aux éditions italiques, avec le PDG de ces éditions, Jean-Pierre Thurberg, qui, je le rappelle, est également président de l'association Lafayette Nous Voilà. On a eu l'occasion d'en parler dans le cadre d'une autre émission, dans la rubrique Point de mire. Jean-Pierre Thurberg, qui nous fait partager donc ses talents d'écriture des poilus. Il y avait les journaux intimes, il y a les journaux de tranchées, vous nous avez expliqué quelle était leur utilité précisément, à la fois pour ces poilus qui devaient attendre très très longtemps avant d'aller au front, et que la guerre de 14-18, ce sont aussi des moments d'écriture. Et ces moments d'écriture, sous la coupole, on les partage avec vous, Jean-Pierre Thurberg. On va parler des deux ouvrages, puisque les journaux tranchés, vous les avez rassemblés dans deux ouvrages qui sont rassemblés eux-mêmes dans un coffret sous le titre « La plume au fusil ». Peut-être, oui, un mot justement, pourquoi les avoir dissociés d'ailleurs ?
Alors, ils n'ont pas été dissociés. C'est le hasard de l'histoire qui a fait que, il y a une douzaine d'années, quand j'ai découvert de façon assez fortuite, je pensais être tombé dans la marmite de la guerre de 14 tout enfant, dans ma jeunesse belfortaine, mais en fait, j'avais de larges pans d'inculture. Heureusement, ça me permet de continuer à prendre du plaisir à ce que je fais tous les jours. Je pensais bien connaître la guerre. J'ai découvert tout à fait de façon fortuite des journaux de tranchées. Je me suis dit, il y a là un angle extraordinaire pour à la fois parler de la guerre de 14 et puis pour faire partager à la jeunesse cette communion nationale qui est si difficile à obtenir.
On va en parler justement aussi.
Je m'étais mis au travail avec ce bel enthousiasme qui est une de mes vertus, ça se paie par d'autres défauts sur lesquels je ne m'appesantirai pas, mais je m'étais mis au travail en disant voilà un champ totalement vierge sur lequel on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Alors, très rapidement, je me suis aperçu que le champ n'était pas vierge. Un champ de bataille, oui, parce qu'on avait, le ministre des Anciens Combattants de l'époque, aujourd'hui président de la région Lorraine, Jean-Pierre Masseret, m'avait donné carte blanche en disant « voilà une idée riche, le ministère des Anciens Combattants qui cherche à faire passer la mémoire aux jeunes générations serait heureux que vous puissiez sortir ce livre ». Alors ça, c'était très positif. Ce qui était beaucoup moins positif, c'était le délai qu'on me laissait, qui était de l'ordre de 3 ou 4 mois, là où tout éditeur sérieux, qu'on est plutôt dans la région des 9-10 mois, ou 11 mois, 12 mois, quand il s'agit d'un livre illustré. Bref, nous avions relevé le défi. Et j'avais découvert assez rapidement que ce terrain n'était pas du tout inexploré. D'éminents universitaires avaient étudié de façon pénétrante et intéressante les journaux tranchés, notamment le professeur Audouin Rougeau, qui a écrit des pages absolument extraordinaires sur ce sujet. Je l'avais contacté un peu naïvement en lui disant « Professeur, voilà, je suis chargé de faire un livre, accepteriez-vous de ?» J'ai senti assez rapidement que l'idée de faire d'abord en quelques mois un livre ne l'emballait pas, puis qu'il pensait avoir dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. Alors c'est vrai, le professeur Audouin Rougeau, je lui rends cet hommage, avait sans doute dit 99,99% de ce qu'on pouvait dire des journaux tranchés. Le simple problème, c'est qu'il l'avait dit sous une forme, le livre universitaire, qui ne touchait pas le grand public. Et là, je suis le poil à gratter des universitaires, parce que j'aime que le grand public se réapproprie sa mémoire. Et l'idée était donc de faire un livre très grand public, très illustré. Je crois que nous avons réussi les 13 ou 14 tirages successifs que nous avons faits de ce livre, les 35 ou 40 000 exemplaires vendus, montrent que le grand public, quand on lui présente les choses sous l'angle qu'il attend, mord à l'hameçon et en redemande. En redemande, oui, puisque le succès de ce livre, dans lequel je citais abondamment une Bible sur les journaux de tranchées, qui était le livre d'André Charpentier, m'a permis d'éditer cette Bible que je citais. Dans la préface des journaux de tranchées, je disais « Il serait souhaitable que le livre d'André Charpentier, Feuille bleue horizon, qui est une anthologie magistrale de la presse de tranchées, soit réédité par un gros confrère. » Je dois dire que mes gros confrères ne se sont pas précipités, et un jour, voyant qu'il ne bougeait pas, j'ai réinvesti les bénéfices de la première édition dans une réédition de ce Charpentier, qui a été édité dans les conditions elles-mêmes extraordinaires, puisqu'André Charpentier était lui-même rédacteur en chef d'un journal du Front, un journal du Front qui s'appelait Le Beau Chauffage. Journal d'ailleurs.
Le Beau Chauffage.
Le Beau Chauffage, c'est tout un programme. Journal plein de talents, journal assez grinçant, journal qui avait un positionnement qui n'était pas sans évoquer quelque chose comme Harakiri aujourd'hui. André Charpentier, blessé grièvement, quasi aveugle, gazé pendant la guerre, a passé les 10 dernières années de sa vie à récolter des journaux de tranchées pour en faire une gigantesque anthologie qu'il a publiée à compte d'auteur dans les années 30 avant de nous quitter. Et cette anthologie qui s'appelle Feuille bleue Horizon est un témoignage absolument irremplaçable dans la mesure où beaucoup de journaux dont il parle et qu'il reproduit sont des journaux qui ont totalement disparu.
Alors ça, c'est le premier ouvrage, justement.
C'est le deuxième ouvrage.
Le deuxième, enfin, l'un des deux.
Le premier, voilà. Historiquement, et le deuxième en termes d'édition. C'est celui que j'ai pu rééditer, réimprimer grâce au succès du premier. Et quand je dis réimprimer, c'est un tout petit peu plus que ça, parce que le pauvre Charpentier avait eu beau recueillir des fonds, il n'était pas très bien équipé en termes de machines, il n'y avait évidemment pas d'ordinateur, il n'y avait pas de programme de gestion de traitement de l'image. Et là, nous avons pu, grâce à un exemplaire original de nos collections, scanner, puis retravailler image par image ce livre, et ce qui fait qu'aujourd'hui la copie que nous en donnons au public est de meilleure qualité que l'original. Nous avons même poussé le perfectionnisme, ce qui est un des défauts dont je parlais tout à l'heure chez moi, jusqu'à aller chercher des journaux tranchés dans nos collections pour les scanner et réintégrer les scans dans l'original, dans la mesure où nos exemplaires étaient meilleurs que ceux de Charpentier à l'époque. Les deux livres sont complémentaires, c'est pour ça que nous les avons réunis dans ce coffret sous le titre La plume au fusil. Le premier donne un panorama général du théâtre des opérations, qui est aussi le théâtre au sens pièce de théâtre du terme, avec le rôle joué par les petits journaux. C'est une introduction un petit peu historique, un travail d'histoire. Et le deuxième, Le Charpentier, réédité dans ce coffret, c'est un travail de mémoire. C'est le journaliste qui se penche sur son passé. Un petit détail amusant, Charpentier a obtenu les palmes académiques, comme un certain nombre d'autres, du reste, au titre des feuilles de tranchées. Les journaux de tranchées, après la guerre, ont valu au rédacteur en chef qui avait survécu, il n'était pas très nombreux.
Donc c'est dire la valeur qu'il représentait.
Une promotion spéciale, palmes académiques. C'est dire qu'ils avaient des qualités littéraires au-delà des qualités, j'allais dire, d'exutoire ou de moyen d'expression. Un petit mot, puisque nous sommes dans les murs de l'Académie française, un des cris unanimes que poussaient les fondateurs des journaux de tranchées, c'était « Chez nous, pas d'académicien ». Et l'académicien était rejeté comme étant le tenant de l'histoire officielle, la presse officielle, etc. C'était une espèce de caractère bravache, caractéristiques de nos soldats. On a beaucoup de contre-exemples, et notamment Anatole France qui envoie un article, sa contribution à un petit journal de tranchées. La dite contribution est évidemment accueillie avec un bonheur fou et immédiatement publiée, d'autant qu'elle commence par « Poilu, mon frère, mon ami », etc., etc. Donc, pas d'académicien, c'était une façon aussi de se gausser des institutions, mais en réalité, ça cachait une immense admiration pour la littérature, pour les écrivains, pour les journalistes.
Deux autres noms familiers, Maurice Genevoix et Georges Duhamel.
Alors, ni l'un ni l'autre, à ma connaissance, ne furent journalistes de journaux tranchés, puisque Maurice Genevoix avait été blessé assez rapidement, et puis je ne crois pas qu'il ait contribué à un journal de tranchées. Duhamel était médecin, donc il était plus occupé à soigner les corps qu'à soigner les âmes. Simplement, ils ont, je crois, l'un comme l'autre, donné du poilu une image complémentaire de celle que nous avons dans les journaux de tranchées. C'est-à-dire que c'est le troisième regard, la troisième facette qui nous permet de mieux cerner cet extraordinaire microscope qu'a été la Grande Guerre, qui nous permet de cerner la nature humaine. L'un comme l'autre nous ont donné des témoignages littéraires construits sans cette volonté de provocation, sans cet humour noir, qui font que quand on a lu des journaux intimes, quand on a lu des lettres de Poilu, quand on a lu des journaux de tranchées, quand on a lu des écrivains immenses comme Maurice Genevoix ou Georges Duhamel, on a compris, je crois, autant qu'on le fera jamais, ce que fut la Grande Guerre.
Jean-Pierre Turberg, on ne va pas naturellement tout révéler, ça serait de toute façon impossible, mais de quoi parlaient ces journaux, tout simplement ?
Alors, il y avait des thématiques, c'était tout simplement les problèmes qui se posaient aux poilus, les choses qui les préoccupaient. En premier, je crois, si on avait à faire un hit-parade, comme on dirait horriblement aujourd'hui, ce qui viendrait en premier, c'est le pinard. Le pinard qui était ce liquide, cet élixir grâce auquel le poilu arrivait à traverser les plus intenses douleurs, les plus intenses souffrances, sans perdre totalement cet humour qui est un des fleurons de la race française, comme on disait à l'époque. Donc sans doute 80% des articles, peut-être pas 80, mais 60% sont-ils consacrés au pinard. À ce sujet, une anecdote qui est racontée par un journal de poilu, un médecin militaire à qui l'état-major demande, comme toutes les semaines, un rapport sur le moral, écrit la chose suivante, publiée par le journal de tranchées. Le moral est globalement bon quand le pinard est là, quand le pinard vient à manquer, le moral chute. Toutefois, il convient de se méfier, au-delà d'un litre par homme et par jour, le pinard a des effets qui s'apparentent un peu à ceux de l'alcool. Bon, voilà un exemple d'article dans lequel un poilu a fait l'effort d'aller lire le rapport du médecin-major et puis de l'utiliser dans son journal. Donc, le pinard, les femmes, mais toujours de façon aimable, c'est un peu la Madelon, on pense aux petites femmes de Paris, on les évoque charmantes. Bon, pour vous citer un exemple, la petite femme qui vient embrasser le poilu qui part à la gare de l'Est, et la légende c'est « Hélas, la guerre va bientôt finir, vous n'aurez plus ce plaisir là ». Enfin, toujours cette volonté de tourner en dérision, de faire quelque chose de drôle à partir d'éléments...
Sur son propre sort, en fait.
Sur son propre sort. Donc le pinard, les femmes, puis ensuite tout un tas de choses dont on ne pensait pas a priori qu'elles deviendraient des héros de journaux, que sont ce qu'on appelle le fourniment, c'est-à-dire la gamelle, le bidon, les grolles, le fusil, tout ce qui fait que le poilu, en tenue légère, comme on disait, non sans humour noir, devait peser son propre poids plus 50 à 60 kilos. Donc il y a des odes à la gamelle, au bidon, oh mon bidon sans lequel je ne pourrais étancher ma soif, etc. etc. Puis au-delà de ça, bien évidemment, les hiérarchies, mais rarement de façon négative, généralement de façon admirative. Et ça aussi, c'est une révélation quand on lit le témoignage de ces hommes relativement peu censurés. Bien sûr, il y avait de l'autocensure, mais je ne crois pas qu'elle jouait tant que ça sur leurs officiers. On s'aperçoit que les officiers étaient en général traités de façon admirative par ces poilus.
Ça aussi, pour notre époque, c'est quelque chose de surprenant.
Quelque chose d'étonnant.
Le rire dont vous avez parlé tout à l'heure, le fait de rire pour dépasser l'horreur, et le respect de la hiérarchie, l'enthousiasme d'une certaine façon dans cette guerre, ou du moins au début.
Je voudrais juste lire un petit passage, si on a le temps.
Bien sûr.
Qui traduit bien, je crois, cet esprit vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis des valeurs. Comment saluer ? Le salut sera exécuté à la 12e division, conformément aux prescriptions ci-dessous. Voilà ce qu'écrit le journal de Poilu. Le salut du vrai Poilu. Trois temps. Premier temps, en vrai coq gaulois, se redresser vivement sur ses ergots, rassembler vigoureusement les talons, porter lestement la main droite à la position du salut réglementaire, tendre tous ses muscles, la poitrine bombée, les épaules effacées, le ventre rentré, la main gauche ouverte, le petit doigt sur la couture du pantalon. Planter carrément les yeux dans les yeux du supérieur, relever le menton et se dire intérieurement « Je suis fier d'être un poilu ». Deuxième temps, baisser imperceptiblement le menton, faire rire ses yeux et dire intérieurement à l'adresse du supérieur « Tu en es un, toi aussi, tu gueules quelquefois, mais ça ne fait rien, tu peux compter sur moi ». Troisième temps, relever le menton, se grandir par une extension du tronc, penser aux boches et crier intérieurement « On les aura, les salauds ». Le salut de l'officier, deux temps. Premier temps, envelopper le soldat d'un regard affectueux, lui rendre le salut correctement, les yeux bien dans les yeux, lui sourire discrètement et dire intérieurement « Tu es sale, mais tu es beau ». Deuxième temps, relever le menton, penser aux boches et dire intérieurement « Grâce à toi, poilu, on les aura ». Voilà ce qu'écrivait le Voltigeur, journal de la 12e division, sur ce rapport qui n'était pas inamical entre les officiers et les hommes.
Un dernier point, Jean-Pierre Thurberg, pour apprécier à sa juste valeur le travail que vous avez rendu ici même et que l'on peut lire à travers ces journaux tranchés. Vous n'aimez pas l'expression « devoir de mémoire ».
Non, j'avais proposé avec un certain goût de la provocation qui n'était pas totalement étranger aux journaux de Poilu, qu'on le remplaçât par le plaisir de mémoire. Quand on lit des témoignages comme celui que je viens de lire, franchement, faire de l'histoire, c'est pas un devoir, c'est pas quelque chose de... Quand on pense au devoir, on pense au devoir conjugal, au devoir de vacances, on n'a pas vraiment envie. Quand on lit des choses comme ça, on a envie de savoir. On a envie de savoir qui étaient ces hommes, pourquoi ils se battaient, ce qu'ils pensaient, comment ils réagissaient. Et on essaie, je crois, c'est pour ça que ça nous touche immensément, on essaie de savoir comment nous aurions réagi à leur place. Je ne suis pas certain que la comparaison soit à notre honneur.
À l'époque de l'Union européenne, de l'intégration des peuples européens, du fait que nous ayons dépassé tout cela, est-ce que précisément ce travail de mémoire n'est pas en décalage avec la réalité d'aujourd'hui ?
Je crois que non. Je crois qu'il nous donne une vision profonde, bouleversante au sens étymologique du terme, sur ce qu'est l'homme. Alors évidemment, grâce à Dieu, les luttes franco-allemandes s'inscrivent dans le passé. Pour l'instant, souhaitons que ça dure, il n'y a pas de menace de guerre immédiate, même s'il y a des tensions, même s'il y a des attentats, même s'il y a des choses qui sont un peu préoccupantes. Mais je crois
pas avec l'Allemagne, bien sûr.
Pas avec l'Allemagne, bien évidemment. Je crois que cette guerre de 14 nous enseigne des choses sur nous-mêmes, c'est-à-dire comment on peut résister à des choses qui, a priori, nous dépassent. Comment l'homme peut s'adapter à des choses qui, a priori, devraient le broyer. Comment l'homme peut surmonter cela et en sortir en plus avec panache. Parce que mourir, finalement, c'est à la portée de tout le monde. Nous le faisons tous, nous le ferons tous. Mais bien mourir, ça n'est qu'à la portée de quelques-uns. Et je crois que les poilus nous ont enseigné à bien vivre et à bien mourir.
Eh bien, panache, ce sera votre dernier mot, justement, Jean-Pierre Thurberg. Panache, avec la plume au fusil, Les journaux de tranchées, édités par les éditions italiques dont vous êtes le président, et qui rassemblent tous ces témoignages à travers des archives que vous avez, et on l'a abordé lors d'une autre émission, puisque le rapport aux archives est tout aussi important que peut-être votre goût pour l'histoire, parce qu'encore faut-il pouvoir accéder à toutes ces archives. Voilà, donc les journaux de tranchées, La plume au fusil, c'est aux éditions italiques. Merci d'être venu pour cet Au fil des pages, nous faire partager ce talent littéraire qui est aussi celui des poilus. Je rappelle également que vous êtes président de l'association Lafayette Nous Voilà et que nous avons eu l'occasion d'en parler dans un point de mire qui lui est directement consacré sur Canal Académie. Merci.